commencera ce matin peut-être à expliciter un petit peu ses questions. Alors, je vais lui demander, pas demander de se présenter, je vais juste dire, vous pouvez le connaître déjà, vous avez vu l'affiche, c'est aussi l'intérêt du site internet. Donc je ne fais jamais de longues présentations de nos invités, je préciserai quand même qu'Emmanuel Pierrat a une qualité ou un défaut, c'est souvent il dort peu. C'est la seule chose qui peut expliquer, à part le fait que nous l'ayons cloné, c'est la seule chose qui peut expliquer comment cet homme arrive à être aux quatre coins de la planète pour faire des conférences ou des formations, comment il arrive à publier autant de livres, qu'il s'agisse de romans, d'essais ou parfois de préfaces, et puis qu'en même temps, visiblement, cet homme est un avocat réputé, y compris, on peut faire le secret, il ne le dirait pas lui-même, y compris le mien, et j'en suis heureuse et fière. Donc voilà, c'est un homme qui sait faire beaucoup de choses, qui le fait avec passion, et c'est pour ça que bien qu'il n'ait pas écrit de romans de science-fiction, d'imaginaire, de fantasy, etc., on a beaucoup de plaisir à l'inviter. J'en reste là, parce que sinon, vous trouvez qu'on va en venir au vif du sujet, que ce n'est pas la peine de faire son éloge ce matin. Voilà, en tout cas, merci Emmanuel Pierrat d'avoir pris encore un peu sur vos 2 heures de sommeil pour être présent aux imaginaires. Donc la première question que je voudrais poser, avant d'en venir au vif du sujet, qui est quand même l'édition numérique et le droit, c'est peut-être, en quelques minutes, d'expliquer pour nos festivaliers quel est le rapport historique, en particulier en France, entre deux notions qui, a priori, n'ont pas de rapport entre elles, mais on va voir que si, l'écriture, le bonheur d'écrire et de publier, et puis le droit, la justice. Emmanuel Pierrat.
D'abord, bonjour, bonjour à tous. Merci de vous être levés pour subir un cours de droit en quelque sorte. Et puis, merci à Stéphanie de faire mon éloge. Moi, j'aurais bien continué pendant 10 minutes quand même. Mais bon, écoutez, voilà. On a le où qu'on peut. Alors, des fois, c'est dynamique. C'est une vaste question que le rapport entre le droit et le livre, ou le droit et l'édition, en théorie, à la fac, ça me fait un cours de 36 heures que je prodigue. Donc, si vous avez jusqu'à à peu près mardi matin. On peut le faire non-stop, vous avez compris que la pause est de 2 heures, entre 2h et 2h et 4h du matin. Voilà, c'est à peu près la seule que je crois. Donc on va essayer de synthétiser en très peu de mots. Rappelez peut-être que le livre et le droit ont des rapports, on va dire, forcément compliqués et houleux, qui sont généralement en défaveur du livre et des écrivains, ou des éditeurs, ou des gens du livre, ou des libraires, et ce depuis, on va dire, bien longtemps. Simplement quelques dates clés ou quelques moments importants. Premier catalogue de livres jamais écrit ou publié, en quelque sorte. Première bibliographie, quel qu'en soit le sujet, jamais donnée, Charles Quint, pour la liste des livres défendus et interdits. Donc, c'est ce qu'on considère en bibliographie comme la première bibliographie au monde. Donc déjà, le ton est donné, puisque le premier livre qu'on consacre pour recenser des livres, c'est pour indiquer ce qu'il ne faut pas lire. Depuis 5 siècles et des poussières, nous vivons sous ce régime, en quelque sorte, où les livres sont des objets de droit soumis à des interdictions plus ou moins complexes, jusqu'à des moments de délire absolu, puisque le chancelier d'Aguesseau, en 1736, a eu la bonne idée de vouloir interdire les romans. Donc, ce qui, à un moment où le genre commençait à venir avoir fait largement ses preuves, était un peu compliqué d'application immédiate. Donc, voilà, un projet de loi, on va dire, typiquement sarkozyste, en quelque sorte, donc c'est arrivé très vite, et aussi farfelu. Donc, et puis ensuite, on trouve à peu près à la même époque des choses plus intéressantes qui sont le début d'articulation entre le rapport entre le statut d'auteur. Et le droit, c'est-à-dire la reconnaissance peu à peu du passage, on va dire, du copiste ou du scribe, en quelque sorte, à véritablement la reconnaissance d'un statut complet d'artiste, d'auteur. Alors au début, sous couvert de privilèges, qui peu à peu la construction de ce qu'on appellera le droit d'auteur, donc qui est une invention du siècle des Lumières, sous sa forme moderne, qui considère que l'auteur jouit d'un certain nombre de prérogatives, des prérogatives patrimoniales, le fait de pouvoir articuler les supports sur lesquels il entend voir son œuvre exploitée, combien de temps, par qui, etc., avec quelle rémunération à la clé. Et puis à côté de ça, des choses qui sont beaucoup plus, impalpables, qui sont de l'ordre de l'intime et du personnel, ce qu'on appelle le droit moral, plus ou moins, c'est donc des prérogatives extraordinaires en droit, qui vont lui permettre de faire valoir. Des questions que je pose parce qu'elles se reposeront dans le cadre de l'édition numérique de façon évidente. Elles sont toujours aujourd'hui en droit et dans toutes les législations applicables. Donc le droit moral, c'est-à-dire le droit au respect de son œuvre, qu'elle ne puisse pas être mutilée, modifiée, découpé, mis en extrait, on va dire adapté sans son autorisation et sans qu'il ait pu voir les modifications, le fait qu'il y a un droit à la paternité, que son nom doit rester inscrit et attaché de façon permanente et perpétuelle, etc. Tout un système de pensée qui place l'auteur véritablement, on va dire, au sommet d'une sorte de pyramide où l'on va trouver le lecteur d'à côté, avec l'idée de domaine public, donc l'idée aussi d'un droit à la culture, et pas uniquement d'un droit de la culture. Et puis, de l'autre côté, l'éditeur libraire, à l'époque c'est la même profession, et donc l'auteur qui, en quelque sorte, domine tout cela, pactisant avec l'un, et sachant qu'il va à un moment perdre la maîtrise de sa progéniture littéraire au profit de l'humanité et du patrimoine culturel commun. Je continue comme ça, je peux faire pendant des heures. Hein, donc en clair, c'est un vieux couple qui n'est régi par aucun texte général. C'est-à-dire que nous sommes toujours aujourd'hui, et c'est à la fois heureux et malheureux, c'est toujours heureux parce que quand on commence à régir la totalité d'une corporation, c'est inquiétant, c'est généralement des textes vichistes. Hein. Donc quand on a aujourd'hui la totalité des règles, on va dire, dans un seul corpus où on vous indique tout ce qui est possible ou impossible de faire avec des livres, ça m'inquiéterait beaucoup. Ça voudrait dire qu'il y a une carte professionnelle d'écrivain qui serait délivrée avec ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit d'écrire, ceux qui bénéficieraient, etc. Je préfère le système un peu plus désorganisé. Néanmoins, le système est tellement désorganisé aujourd'hui que c'est un empilement d'environ 452 textes minimum. Et là, je parle juste des lois, je ne parle même pas des articles différents qui régissent le métier d'éditeur, d'écrivain, d'illustrateur, de livre, etc. Et on est encore juste sur la version papier. Pour la version numérique, on en est actuellement à 24 lois, 32 directives européennes et aucune, on va dire, n'a véritablement abordé de front le sujet. Voilà pour l'avance.
Eh bien, ça lance le débat, la réflexion, et tout de suite on va rebondir justement, puisque c'est notre sujet, le livre numérique. Est-ce que peut-être en quelques mots, on pourrait d'abord définir, avant d'en venir au fond des rapports entre le droit, l'auteur et ceux qui vont diffuser, qu'est-ce que c'est le livre numérique, quelle définition juridique, je ne parle pas de la réalité des appareils technologiques qu'on peut voir apparaître, et puis à partir de là, qu'est-ce que selon vous, ça va changer dans le fonctionnement actuel de l'édition. Voilà, les premières pistes de réflexion, ça nous laisse déjà le temps de faire un début de conférence d'Emmanuel Pierrat.
Bien. C'est bien, les questions de Stéphanie sont très ouvertes. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'édition numérique ou le livre numérique? Personne n'en sait rien. En réalité, soyons sérieux, en droit, personne n'en sait rien et personne n'est capable, on va dire, de donner une définition. Et quiconque s'y aventurerait aujourd'hui en termes de législation à vouloir définir ce qu'est un livre numérique se foudrait le doigt dans l'œil à peu près jusqu'au coude, parce que d'ici 6 mois, en gros, sa définition, elle sera totalement obsolète. Si vous prenez les quelques textes qui parlent du numérique ou de l'édition, par exemple les plus récents qui viennent d'entrer en vigueur, parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où la directive européenne arrive, la loi, le Parlement national finit par comprendre qu'il doit statuer de façon obligatoire sur le sujet, ensuite de quoi, comme il ne comprend rien, donc c'est toujours inquiétant hein, quand vous avez des gens qui généralement lisent peu de livres mais qui en plus n'ont aucune idée de comment marche internet, sont chargés de légiférer sur le livre numérique. C'est ce qui s'est passé pour le prix du livre numérique il y a à peine quelques jours. Vous posez la question, on aurait dû faire un test, vous savez, un sondage à la sortie de l'Assemblée pour savoir est-ce que vous pouvez me dire quand même à quoi ressemble un livre numérique. On aurait eu des réponses très évasives. C'est un peu comme ça avait été fait dans un doc à propos du Goncourt. On avait interrogé juste après la proclamation du lauréat la totalité du jury et en lui disant c'était un très mauvais bouquin de Laurent Godet. Tous les bouquins de Laurent Godet sont mauvais, donc c'est une tautologie. Mais en gros, c'est la mort, il y a la mort de la vieille dame à la fin, quelque chose comme ça. Donc un truc assez marquant, et on disait toujours, et vous avez aimé la fin, et tous disaient, ah oui, fin formidable, très optimiste, etc. Enfin bref, en gros, ils disaient des généralités, parce que personne n'avait fini le bouquin. Donc il y a quand même, le journaliste dit, mais ça se termine quand même avec une mort. Il dit, oui, mais toute mort est une renaissance, etc. Donc en gros, le livre numérique, le Parlement qui statue dessus ne sait pas ce que c'est. Et les juristes, forcément, parce que les juristes sont bien en peine de savoir ce que c'est. Juste pour votre information, quand on parle de livre numérique en droit et de texte sur le livre numérique, on arrive à des incongruités, puisque on a encore aujourd'hui, par exemple, des sympathiques conglomérats qui font du lobbying à tour de champ, à bout de couloir d'assemblée plutôt, et de bureau, de parlementaire pour parlementaire, pour venir essayer de caser un amendement au profit de telle ou telle branche de l'industrie ou de telle ou telle forme de tablette qui vient d'être inventée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon jargon, on parle plus, par exemple, de la DOPI. La DOPI, c'est un grand texte de loi, mais on dit l'amendement Sony. L'amendement Amazon, l'amendement Microsoft, donc dans notre jargon, pour indiquer des numéros de texte qui on n'en retiendra pas par cœur, parce que dans, on va dire, 2 ans, ils seront obsolètes. En tout cas, donc, ceux qui viennent de rentrer en vigueur, par exemple, aujourd'hui, on est en train de reprendre les décrets d'application avec les arrêtés qui vont ensuite, etc., sur la DAFSI. Alors la DAFSI, ça aura fait peut-être quelque chose. Vous vous souvenez de Renaud Donnelieu de Vabre, c'était un ministre de la Culture d'il y a déjà quelques temps, qui a sauté en plein milieu, on va dire, d'un débat parlementaire qui était supposé régler une bonne fois pour toutes le problème du téléchargement sur Internet. Donc, vaste sujet, vaste débat, ambition évidemment populiste et démagogique, démagogique envers l'industrie ou les conglomérats. Et donc la DAFSI, ça voulait dire droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information. Société de l'information étant le terme qu'on utilise toujours pour parler d'Internet. Donc, je ne sais pas si vous voyez les problèmes déjà de sémantique qu'on a. Donc, définir un livre numérique, on n'en sait rien. D'autant plus que, pour parler toujours des lobbyistes, parce que c'est une chose très intéressante quand on parle de ça, de droit et de rapport entre droit, livre numérique, édition, on parle de gros sous, en quelque sorte, potentiels, plus que de sous réels, et on parle essentiellement, on va dire, de jeux de stratégie et d'alliance entre conglomérats de l'édition et conglomérats de la technologie. À tel point que le fameux Sony, dont je parlais de l'amendement Sony, alors on distingue chez nous l'amendement Sony Hard ou l'amendement Sony ou l'autre amendement Sony, parce que Sony n'a pas réussi à s'entendre en interne. Sony fabrique des machines, pour écouter, enregistrer, lire ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté, Sony, comme vous le savez peut-être, est une des 4 majors mondiales du disque. Donc ils sont à la fois producteurs de, machines à écouter, pirater, tout ce que vous voudrez, dupliquer, et de l'autre côté, en permanence, en train de se plaindre de la perte de leurs bénéfices ou de la chute progressive de leurs bénéfices. Donc, ils ont décidé d'envoyer 2 équipes de lobbying au Parlement français comme au Parlement européen, qui chacune plaide le contraire de ce que fait l'autre. Alors, le parlementaire de base, de Vaud, des Vosges, puisque je suis d'origine de Saint-Dié, donc je peux me permettre de dire non pas des vacheries, mais des petites piques, qui reçoit parmi 450 propositions dans la journée. Donc, la politique agricole commune, le prix du lait, des machins, truc, mûcher, bidule sur le radar, et un mec de chez Sony le matin qui lui explique un truc, et l'après-midi, un autre mec qui se présente encore de chez Sony qui lui explique exactement le contraire de ce qu'il avait commencé vaguement à comprendre le matin, ça donne des votes totalement ahurissants, donc une absence complète de définition, ce qui fait que le prix du livre numérique est un texte de loi qui a été voté sans qu'on sache du tout à l'intérieur ce qu'est un livre numérique. C'est de la même façon d'ailleurs que la loi sur le prix du livre, celle de 1980, qui avait du 10 août 1980, dite loi Lang, dans mon jargon, sur le prix du livre papier, qui fixe un prix unique du livre papier, ne définit jamais ce qu'est un livre. Ce qui est une chose assez formidable en droit, c'est-à-dire de ne pas dire de quoi on parle, parce qu'on n'arrive pas à définir finalement ce qu'est un livre, et que la définition, on la trouve dans une instruction fiscale de 1971 qui distingue entre les bottins, les annuaires, les bibles gastronomiques en quelque sorte, etc., pour savoir si ou non, est-ce que, en plus du numéro de téléphone, s'il y a un commentaire, c'est un livre, s'il n'y a pas de commentaire, ça n'est pas un livre. Donc, vous voyez, on est donc en réalité sur une instruction fiscale de 1971, reprise dans la loi de 1981, reprise par le législateur en 2011 pour dire il faut donc absolument sauver ou encadrer en quelque sorte le livre numérique grâce à un prix unique. Donc, nous ne savons pas ce qu'est un livre numérique. Et ce qui fait que dans les contrats, de façon concrète, quand on commence à aborder la question des transferts et des cessions de droits, est-ce qu'un éditeur se fait céder des droits numériques, etc., on revient toujours dans la même mécanique que celle qu'on appliquait en matière de livres, c'est-à-dire qu'on ne dit pas vous nous cédez les droits d'édition, ça ne veut rien dire. Il y a l'édition en poche, il y a l'édition en club, il y a l'édition en gros caractères, il y a l'édition en forme ordinaire, il y a l'édition en langues étrangères, etc. Il y a des tas de formes d'édition diverses et variées, donc on va regretter, on va définir des listes de supports qui vont avoir un caractère numérique. Donc on va commencer, on énumère dans des contrats toutes les formes de téléphonie mobile possibles. Alors on est en train de réfléchir, est-ce qu'on rajoute ou non en ce moment donc la télévision connectée, qui est quelque chose qui fait peur aux opérateurs de télévision. TF1 tremble, il était temps, à l'idée qu'on puisse passer du temps à regarder Internet sur sa télévision. Bon. Donc, et donc nous on réfléchit à l'idée dans les contrats de mettre ou de négocier la possibilité donc de diffuser le livre numérique sur l'écran de télévision familiale. Vous voyez, version DSK, c'est bien parce qu'en plus vous avez le fauteuil vibrant qui va avec le bouquin fantasy, donc ça permettrait des effets intéressants.
Vous êtes en forme là ce matin?
Au fur et à mesure, je m'échauffe très bien, donc... Donc, pas de définition du livre numérique, plutôt une définition par opposition, par contraste, on va dire d'un côté papier, puis du reste, de l'autre côté, tout le reste ou presque. Sachant que, par exemple, on n'arrive pas à définir, pour vous montrer une idée de notre problématique, on a des notions juridiques sur lesquelles que moi, auxquelles je suis attaché, il faut bien le dire, parce que ce sont encore une fois des notions nées sous la philosophie des Lumières. Et on va dire que beaucoup de choses d'idées progressistes qui sont apparues sous les Lumières me semblent plus intéressantes, on va dire, que ce qui a été produit par la suite sous l'égide du capitalisme ou des conglomérats. Donc, ces idées fortes selon lesquelles l'auteur a véritablement des droits, et ce n'est pas un droit d'éditeur, c'est un droit d'auteur, dans la terminologie française, terminologie qui a été reprise dans toutes les conventions internationales, l'idée selon laquelle il y a un droit moral, l'idée selon laquelle, etc. Donc, toute cette articulation, elle a beaucoup de mérite, elle a quelques défauts. Et ces défauts, on les a aujourd'hui encore dans les textes que nous ne voulons pas défaire pour des raisons beaucoup plus larges que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire l'attachement que nous avons, professionnel du droit, à cette construction face à des systèmes de copyright, face à des systèmes, on va dire, d'absorption immédiate des droits et de disparition des auteurs qui sont appelés dans les maisons d'édition américaines en comptabilité des fournisseurs. Ce qui est quand même assez qualificatif qu'on peut apprécier, hein, si à la rigueur on était payé réellement comme les fournisseurs, c'est-à-dire au maximum 90 jours fin de mois. Donc pour revenir à ça, on est quand même obligé de se débattre avec, par exemple, des notions comme le droit de reproduction et le droit de représentation. La reproduction, c'est le fait de pouvoir, en quelque sorte, diffuser ou exploiter une œuvre sur un support à peu près stable, en quelque sorte, que l'on peut visualiser, visionner de façon fixe. La représentation, c'est la lecture, la performance théâtrale, quelque chose de très évanescent. Qu'est-ce que c'est que la lecture en ligne? C'est du droit de reproduction ou du droit de représentation? On n'en sait rien. Et pourtant, on doit se débattre avec ces deux notions juridiques et essayer d'articuler et de faire rentrer cette pratique dans ces cases. Ce qui fait que nous passons notre temps donc à jongler dans les contrats et à écrire des trucs absolument délirants qui vont faire bondir à Yerdal, qu'on verra tout à l'heure normalement en séance, donc, et à 17h il sera chauffé. Voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve donc avec ce corpus auquel je suis attaché, auquel beaucoup sont attachés, totalement inadapté, et en même temps l'idée que si on le touche maintenant, de toute façon on aura tout faux, parce que ce que l'on a élaboré. Quand je reprends mes petites tablettes, moi j'ai prêté serment il y a maintenant pratiquement 20 ans. Les premières affaires d'Internet, on les a plaidées en 1996. Donc la première contrefaçon, c'est 1000 milliards de poèmes de Queneau qui avaient été mis en ligne par des étudiants. Vous voyez qu'en plus c'était assez merveilleux parce que le mécanisme, vous connaissez le livre, hein, avec les languettes, etc. Donc en mode interactif complet, ça peut être joué de façon absolument merveilleuse. Ça n'a pas plu à Gallimard, mais il y a peu de choses qui plaisent à Gallimard, donc qui détient les droits. Donc évidemment, on a plaidé cette première affaire il y a donc maintenant 15 ans. Et je vous assure que le vocabulaire qu'on utilisait à l'époque, la façon dont le juge regardait la bête, l'ordinateur. Donc, parce qu'en plus, je me souviens très bien, tout le monde avait triché, puisque comme il n'y avait pas de connexion Internet au palais de justice, il n'y a pas de connexion du tout. Hein, c'est-à-dire, on est hors du monde, en plus, dans les tours de la conciergerie. Vous voyez, donc, on est resté bloqué à une certaine époque. Voilà, on croit encore que Marie-Antoinette et Louis XVI sont quelque part en bas dans le cachot en train d'attendre la guillotine. Et donc, autant vous dire que généralement on n'a pas de prise pour aller brancher. Quand on a trouvé une prise pour brancher à l'époque, notre petit modem et le impossible. Donc on avait fait en accord toutes les parties dans l'affaire, tous les avocats avaient fait un fake complet, c'est-à-dire on avait fait tourner un programme qui était supposé faire croire au juge qu'on était connecté à Internet. Ils trouvaient ça merveilleux. Donc, une sorte de Wi-Fi avant l'heure, quoi. Donc, voilà. Donc, pardon ? Oui, c'est la débrouille. Mais tout le monde était d'accord. On s'était tous mis d'accord, avocats de toutes les parties, pour. Voilà. Mais le juge nous a regardé comme si on était, mais je sais pas, j'aurais été Houdini. C'était pas mieux, hein, je vous assure. J'ai appuyé sur le bouton, il a fait waouh. Voilà. Donc on est avec cette obsolescence qui n'est pas sans poser beaucoup de difficultés face à des problèmes de téléchargement, face à des problèmes de contrats anciens, de contrats nouveaux, de détermination de rémunération, de support qui évolue en permanence. Plus, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Effectivement, de préservation de la chaîne aussi des opérateurs de librairie. Moi, on y viendra, ça sera sans doute une partie du débat cet après-midi, mais je suis toujours un peu perplexe quand j'entends le discours selon lequel on va faire beaucoup d'économies parce qu'on va se débarrasser des intermédiaires. Moi, j'aime pas qu'on se débarrasse des intermédiaires, je vous le dis, parce que notamment dans les intermédiaires, il y a les libraires. J'ai pas la sensation que les libraires soient une scorie si épouvantable que ça. Donc il y a quelques fâcheux, quelques crâcheux, ça peut arriver, etc. Mais l'idée que l'on puisse se débarrasser en quelque sorte d'un endroit qui en réalité, de gens qui en font en réalité œuvre de culture, mais toujours désagréable, tout ça pour arriver à gratter 2,5 points sur des rémunérations, on va dire, qui font quand même pas de nous des Dan Brown en puissance.
Ça nuance là vraiment.
Tu fais des questions ouvertes, tu fais des questions réponses.
C'était le but. Puis c'est pratique pour une modératrice, Kevin Pierrin, elle pose quelques questions ouvertes et la conférence continue. Donc c'est un vrai plaisir. En fait, je suis comme vous, c'est-à-dire que je ne connais pas grand-chose sur ces sujets-là. Je les découvre, je m'y intéresse, et je m'en passionne et je m'en inquiète à la fois. Je donne un exemple concret pour rebondir, et à nouveau, Kevin Pierrin nous explique un petit peu comment il voit les choses. J'ai reçu il y a quelques mois, comme un certain nombre d'auteurs, un contrat d'un de mes éditeurs. Un éditeur au demeurant respectable et plutôt sympathique. Et il a publié donc en grand format, 22 euros, un essai sur un sujet qui n'a rien à voir avec l'imaginaire, qui s'est vendu, on va dire, modestement, 300-350, voilà, mais bon, hein, le sujet c'était plutôt tout à fait honorable. Et il m'envoie un contrat, très gentiment, avec un petit mot gentil, me proposant de signer les droits numériques à 8%, c'est-à-dire la même chose que le livre à 22 euros, sans préciser d'ailleurs combien il allait vendre en version numérique. Or, j'ai signé un contrat autorisant mon éditeur, qui dispose d'une collection de poche, à reprendre, lorsque le livre a épuisé, le premier tirage de 1500, avec les services de presse, les livres défraîchis, abîmés, et quelques exemplaires vendus en dehors du circuit libraire. On n'est pas loin, il doit rester 150, 100 exemplaires. Donc dans 2 ans, il n'y en a plus. La question que je me suis, alors ça c'est un problème des paranoïaques que je me suis posé, c'est est-ce que mon gentil éditeur n'a pas envie finalement de ne pas faire une version poche, et faisant du numérique, il ne le fait pas en plus d'une version poche, mais à la place d'une version poche, en baissant le prix et en me laissant les mêmes droits. Finalement, pour un essai aussi pointu, la question comme autrice que je me suis posée, elle est simple. C'est ce que je n'ai pas plutôt intérêt à ne pas signer, c'est ce que j'ai fait, j'ai gardé le contrat. Je vais d'ailleurs m'en expliquer au mois de juin aimablement avec lui, pour qu'on discute, parce que je pense qu'il faut se parler avant tout. Avant de polémiquer, il faut se parler. Voilà, premier problème, est-ce que l'édition numérique ne sera pas un moyen pour les éditeurs de ne plus imprimer les livres ? C'est-à-dire non pas de faire une offre supplémentaire, mais une offre alternative. Ça, c'est un problème déjà de fond. C'est est-ce que ça se substitue au papier ? Alors, moi, je suis beaucoup plus favorable au complément. Voilà, première question. Et la deuxième, c'est est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour l'éditeur de réduire ses coûts de fabrication, de liquider, en tout cas en partie, on y vient, les intermédiaires et ses coûts de distribution, ou d'avoir les intermédiaires moins chers. Et finalement, le dindon de la farce, c'est l'intermédiaire. Et en effet, même si je peux parfois critiquer les libraires, et je pense qu'il faudrait parfois qu'ils se modernisent, y compris en matière de type de littérature à vendre, pas toujours Laurent Godet en effet, peut-être aussi les livres d'imaginaire qui ont un vrai public, eh bien est-ce que les dindons de la farce ne sont pas finalement les libraires ? Je pense que la disparition des libraires, on a vu ce que ça donne aux États-Unis, c'est pas une bonne chose, y compris pour les livres nouveaux, ambitieux, originaux, etc. Deuxièmement, est-ce que c'est pas aussi le deuxième dindon, l'auteur qui ne bénéficiera plus, sauf exception, d'une édition poche papier, donc d'une nouvelle occasion de revendre du livre et de toucher des droits d'auteur et de toucher un nouveau public, et que le numérique deviendrait non pas une troisième possibilité, peut-être une quatrième en plus des clubs et autres, mais une possibilité alternative, mais moins intéressante, en tout cas, pour l'auteur et l'intermédiaire qui est le libraire. Troisième et dernière question, toujours dans cette même logique, est-ce que finalement, ces nouveaux contrats ne posent pas aussi le problème de la nouvelle place de l'auteur dans ce système? Parce qu'on sait bien que mettre des verrous, ça ne marche pas et ça énerve, ça ne sert à rien, et que de toute façon, nous n'empêcherons pas, avec les moyens, les techniques qui se développent, la possibilité, une fois que c'est mis en ligne et téléchargé, vous aurez tous les contrôles que vous voulez, vous n'empêcherez pas que les gens qui ne veulent pas le payer ne le paieront pas. Donc comment avoir une vraie rémunération du droit d'auteur, si l'on sort les esthètes font de temps en temps un livre, hein, et puis les produits commerciaux, il faut bien aussi que les gens vivent de leur travail, même si ce n'est pas toujours leur seul métier, et comment ne pas être non plus dans une position de peur et de conservatisme, alors que peut-être ce nouveau marché, entre guillemets, gratuit, est aussi l'opportunité d'obtenir un lectorat nouveau. Le lectorat, je finis là-dessus, je ne fais évidemment pas, je suis en public, de téléchargement illégal de séries télévisées américaines, mais si je le faisais, ce ne serait pas nécessairement pour ne pas payer, ce serait pour les avoir plus vite. Et comme la technique n'est pas toujours au point, je me dirais qu'ensuite, si on me propose un produit, je vais en plus l'acheter, parce que je vais regarder les choses que je n'aurais pas achetées. Mais que les voyant, en commençant à les lire gratuitement, je me dis, tiens, finalement, c'est bien, j'aurais pas osé l'acheter, j'aurais pas pris le risque, ben là, comme ça m'a rien coûté, j'ai pris le risque, du coup, je vais l'acheter. Voilà, les trois pistes et les trois interrogations que j'ai à partir tout simplement d'un petit contrat envoyé par la poste.
Tu veux que je te pose des questions ou
Non, je cherche des réponses.
D'accord, ok, très bien. Non, mais c'était très bien, très intéressant. Alors, ça m'a donné plein d'idées, évidemment. Alors, peut-être que la meilleure façon, puisque tu parles de ton cas personnel, c'est de parler de son cas personnel. Puisque comme je publie 6 ou 7 livres par an, donc je signe au moins 6 ou 7 machins numériques minimum par an, plus les 7 ou 8 livres que je préface, ou quoi que ce soit à côté, donc même chose. Le dernier livre que j'ai publié est sorti directement en édition numérique, il n'y a pas de version papier. C'est un choix, c'est un livre technique, c'est un livre juridique, c'est un livre de contrat qui a besoin d'être mis à jour de façon, on va dire, permanente. On s'est aperçu avec l'éditeur qu'il existait, on avait fait des éditions papier précédentes et que c'était, d'un commun accord, assez ridicule de continuer à faire un objet, on va dire, technique, lourd, cher. Où on s'interrogeait économiquement sur l'opportunité de faire la mise à jour alors qu'il restait du stock et le stock trop court, etc. Enfin bref, toutes ces questions que chacun ici peut connaître en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur. Donc on a délibérément opté pour le livre numérique avec des taux négociés par mes soins. Donc comme je suis l'avocate de mon éditeur d'habitude, évidemment ça, je ne suis pas le mieux placé pour être objectif sur la situation. Ceci dit, je me suis permis de négocier une chose très simple pour ce qui est de l'accès à la culture, etc. C'est travaillant beaucoup avec l'Afrique, partant donc faire une formation sur l'édition à Madagascar d'ici 15 jours, par exemple. J'ai négocié le copyleft total pour le continent africain. Donc, c'est-à-dire que, voilà. Mais la totalité du bouquin qui est vendu 32€ en ligne pour tout le fichier téléchargeable, machin, etc. Est entièrement sous copyleft dans une licence rédigée par mes soins pour tout éditeur dont l'implantation et de la diffusion est en Afrique subsaharienne et autres, hein, peu importe du nord et subsaharienne, et avec possibilité de traduction dans un certain nombre de langues et de mettre à profit, etc. Enfin, tout un système de copyleft qu'on en existe beaucoup. Mon éditeur était d'accord, s'en fout, il n'est pas particulièrement africanophile, simplement que comme il ne vend pas, étant donné le prix de vente de toute façon, donc sur le marché africain, sauf à quelques, on va dire, brebis égarées comme ça, donc de toute façon, ça ne lui enlève rien, et moi, ça me met plus à l'aise vis-à-vis de mes camarades, éditeurs et écrivains aussi africains, qui sont dans un tel foutoir et dans un tel bazar, que faire de l'édition en Afrique relève véritablement de la littérature. Relève véritablement quand on est en train de parler de nos problèmes de survie de droits d'auteur ici et d'atello précaire, on reste quand même un télo précaire, n'étant pas obligé tous les jours de passer la serpillière, on va dire, pendant 8 heures pour pouvoir se permettre d'écrire un tout petit peu le soir. Pas tous. Donc, ceci dit, pour le reste, quand il s'agit de regarder les contrats, je veux dire que les cordonniers étant peut-être les plus mal chaussés, néanmoins je signe à peu près tout ce qu'on me propose sans discuter. Parce que la candeur des éditeurs est assez fascinante. Encore une fois, on est en train de discuter à l'instant T d'une matière qui dans 6 mois sera peut-être complètement différente que, de celle que nous avons aujourd'hui avec toutes les machines diverses et variées qui sont à notre disposition, que ce soit celle-ci, que ce soit celle-ci, etc. Et quand je dis la façon dont les contrats sont faits, ça ne m'inquiète pas de céder mes droits. Pourquoi ? Parce que les règles de droit auxquelles je tiens, donc les règles de droit que j'ai vaguement expliquées, en tout cas remontant toujours à il y a 2 siècles et demi, et qui font partie intégrante du droit positif, c'est-à-dire du droit applicable, dans la totalité, on va dire, du monde, aujourd'hui, font qu'il est obligatoire pour l'éditeur d'énumérer, par exemple, les supports de façon détaillée sur lesquels l'éditeur entend exploiter. Or, moi je publie dans, hors collection, c'est Presse de la Cité, c'est Editi, c'est Ex Vivendi Publishing, c'est Ex Havas, c'est désormais donc membre de Planeta, donc c'est numéro 3 ou je sais pas combien de l'édition internationale. Ça c'est, chez Obex, ça c'est plus sympathique, c'est une maison indépendante. Mais la plupart de mes œuvres sont chez Fayard et Auchan qui appartiennent à Hachette, qui appartient à Lagardère, qui vend des missiles en ce moment en Libye ou quelque part par là. Donc, c'est marrant, décidé de continuer à se faire la guerre et de créer chacun leur plateforme et leurs fichiers et leurs formats. En clair, souvenez-vous pour les plus anciens d'entre vous, donc, que nous, au début de la cassette vidéo, nous avions sur le marché une offre qui s'appelait le VHS, le V2000 et le Beta. Je ne sais pas qui est le seul d'entre vous qui a choisi le V2000 donc, à l'époque, mais donc, ça reviendra par être à la mode hein, un jour dans mon truc d'antiquité, tout est vintage à un moment. Donc, le V2000 a eu un temps de survie, on va dire, assez limité. Et c'était un choix que proposaient les opérateurs dans le milieu de l'audiovisuel aux producteurs de films, aux réalisateurs de films. Donc dans les contrats, on optait, on se faisait céder les droits selon les accords qui avaient été passés par les maisons de production, donc par Pathé, par Gaumont, par machin, etc., avec tout un tas d'autres opérateurs. Et éventuellement, un réalisateur signait pour était d'accord pour que toute son œuvre soit éditée en V2000. Sincèrement, ça ne lui a pas aliéné ses droits pour le reste de la nuit des temps. Enfin, en V2000, si, je suis d'accord. Pour les autres supports, sincèrement, et même ceux qu'on signait à l'époque pour le VHS, je ne sais pas combien d'entre vous achètent encore des VHS, ça existe, je n'ai même pas vérifié d'ailleurs si ça se fait encore, donc je ne crois pas. Hein, donc,
dans les brocantes.
Dans les brocantes, voilà, merci.
Oui, oui.
La FNAC a un rayon VHS, oh là, donc à coup ça?
À Toulouse,
oui, c'est normal. Donc,
on fait du très bon magasin de canard.
Et donc, oui. Non, mais c'est comme le foie gras, toutes pratiques qui seront interdites ou obsolètes d'ici peu de temps. Donc, en tout cas, donc, les contrats qu'on nous propose à l'heure actuelle prévoient tous de façon, on va dire, incidente, en soit trop large pour être valable en droit, c'est-à-dire qu'ils visent l'édition numérique, point. Or, le droit a horreur de cette espèce de formulation très large, et donc exige que soit détaillé de façon précise de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un téléphone? Est-ce qu'on parle d'une liseuse? Et de quelle liseuse on parle? Etc, etc, etc. Et donc, soit ils sont trop larges, soit ils sont précis. Et quand ils sont précis, la plupart du temps, ils visent des supports sur lesquels, sincèrement, je ne miserai pas beaucoup. Nous avons aujourd'hui, puisque l'édition française est toujours, qui se plaint en permanence d'Amazon, a décidé de faire tellement bien front commun qu'il y a 4 plateformes numériques différentes. Je parle des gros opérateurs, sans compter tous les indépendants qui y ont développé, pour certains, leur propre outil et leur propre plateforme, etc. Je n'ai aucune idée dans cette foire d'empoigne de qui va rester sur, en quelque sorte, gagnant, qui va s'en sortir, sans doute des plateformes spécialisées, ça c'est une chose, on va dire, j'en sais rien, je ne sais pas si ça existe en fantasy, mais en tout cas dans le juridique, il y en a, pour des livres pratiques, il y en a. Ensuite, pour cette espèce de grand fourre-tout qu'on appelle littérature générale, c'est-à-dire les romans, les essais, machin, enfin bref, l'espèce de flot commun, aujourd'hui, je n'ai aucune idée de qui sera l'opérateur de demain. Je n'ai aucune idée qui aura le bon format de fichier, qui en quelque sorte finira par convaincre économiquement et ergonomiquement les lecteurs que l'on appelle des consommateurs. Ça m'énerve, donc je ne prends plus le mot consommateur. C'est le combat des consommateurs contre je ne sais pas quoi tout le temps quand on parle de téléchargement ou j'en sais rien. Donc aujourd'hui, sincèrement, je signe moi sans grande difficulté avec des taux qui pour l'instant sont, je les regarde vaguement, les éditeurs d'eux-mêmes essaient de les remonter peu à peu, mais en réalité, quand je reçois mes relevés de vente, vu les efforts formidables qui sont faits de promotion du livre numérique on va dire ces plateformes, pour celles d'achète, je vous mets au défi, j'ai mis une demi-heure moi-même à me trouver. Vous voyez, je suis quand même motivé parce que j'ai quand même un ego comme ça. Donc pour y aller et pour réussir à trouver l'endroit où on peut me télécharger, dans la version numérique de mes bouquins chez Fayard, il m'a fallu une demi-heure. Je ne pense pas être complètement manchot du clavier, hein, donc et de la souris. Donc une demi-heure montre en main. Mon éditrice m'a dit « Ah bon, on est en ligne ?» Donc là, c'est formidable. Donc, et effectivement, sur mes relevés de vente, parce que nous sommes sur la période des rééditions des droits, à peu près mon ratio à l'heure actuelle, je vous le dis, je l'avoue humblement, quand ce n'est pas du juridique et quand je ne fais pas du technique, je suis à 2 pour 55 000. C'est-à-dire 2 exemplaires numériques pour 5 000. J'ai relu 3 fois hein, pour être sûr que le chiffre était le bon, à peu près. J'avais eu cette expérience intéressante d'aller au moment de la discussion sur le droit de prêt. Vous voyez, il y a 15 ans environ, tout le monde s'engueulait sur est-ce qu'on doit appliquer un droit de prêt aux bibliothèques, etc. etc., etc. Donc, il y avait Claudine Bayage qui dirigeait la médiathèque d'Angers, qui était la fer de lance du combat contre le droit de prêt dans les bibliothèques, etc. Il s'avère que je lui avais donné un cours de droit d'auteur imposé par la mairie d'Angers. Bon. Donc je l'avais comme étudiante, c'est un peu comme avoir Heyerdahl en classe pendant 8 heures, donc c'est compliqué. Et non, mais ça s'était très bien passé, hein, mais les débats étaient parfois musclés. Et puis à la fin, elle me dit bon, allez, je t'embarque à la médiathèque, tu vas te marrer. Et on a pris la liste avec un système qui était élaboré à la médiathèque d'Angers. Ils avaient un truc qui était à l'époque novateur, hein, on parle d'il y a quelques années, où il y avait la totalité, donc en informatique, des livres sortis et du nombre d'emprunts pour chaque titre et par chaque auteur. Elle me dit, on va prendre les pétitions des connards de la Société des gens de lettres, à laquelle j'appartiens. Et on va regarder. Donc, Georges-Olivier Château-Renaud, c'est celui qui s'indigne dans Libération, etc., qui dit, je veux que mes livres, quand ils sont prêtés dans des bibliothèques et lus, etc., me rapportent et qu'ils ne soient pas, etc. Enfin, on va regarder Château-Renaud, donc 18 bibliothèques, hein, l'agglomération d'Angers. Il y a Bibliothèque Centrale, plus, etc. Ils avaient tout Château-Renaud, m'a dit, tiens, il y a peut-être un bug, mais personne ne l'a emprunté dans l'année. Il y a eu un grand jeu. La réalité, on a pris une série, puis après, elle m'a dit, on va regarder pour toi. Elle me sort mes titres de fiction, un prêt, vaguement, et encore. Elle me sort mes livres de droit, 48 prêts. Donc, par titre à peu près. C'est-à-dire que chaque semaine, il y avait une liste d'attente. ce qui d'ailleurs était concordant avec non seulement le caractère technique, mais par ailleurs le prix de vente des ouvrages juridiques. Au motif, c'est des étudiants, on les fait payer 4 fois plus cher pour le produit qui est manufacturé aussi mal que ceci. Ce système aujourd'hui, c'est l'état dans lequel nous sommes. En pratique, en clair, nous signons des contrats qui visent des supports qui seront obsolètes, nous signons des contrats qui soit ne visent pas de support et donc seront de toute façon annihilés très rapidement, et nous signons des contrats avec des gens qui, dont eux-mêmes, ne sont pas équipés et ne le seront pas malgré leur volonté pour exploiter eux-mêmes directement en ligne. Je ne sais pas si ta maison d'édition exploite elle-même directement en ligne, je n'en suis pas convaincu, donc pas encore. Pas encore, et puis à un moment, de toute façon, le temps de développer une offre numérique et de la mettre en place, quelqu'un d'autre viendra leur proposer des services pour le faire qui seront sans doute plus efficaces. Donc le taux qui est proposé sur l'édition directe en ligne par ta propre maison d'édition, de toute façon, ne rime à rien. C'est comme quand mon éditeur principal me demande, dans l'hypothèse où il ferait lui-même du poche, etc. Alors qu'il y a peu de chances pour qu'il rentre sur le marché du poche demain matin, parce que c'est un marché de plus en plus cloisonné, malgré les apparences. Donc, et c'est à peu près la même chose. Donc moi, je fais plutôt un pari, on va dire, sur la décantation nécessaire, et je serai un peu plus vigilant dans 2 ou 3 ans. La seule chose qui m'intéresse, et la seule clause qui vraiment m'intéresse, c'est celle qui concerne à chaque fois ce qu'on appelle l'exploitation permanente et suivie en droit. En clair, un éditeur continue à détenir les droits d'un livre à partir du moment où il continue de pouvoir satisfaire d'une façon ou d'une autre le lecteur qui souhaiterait obtenir l'œuvre. Donc il suffit qu'il ait concédé donc, des droits en poche, qu'il ait concédé des droits, on va dire, à une tablette ou une liseuse ou j'en sais rien, même totalement périmée mais qui reste plus ou moins en activité, pour que le livre, quand bien même serait-il épuisé en version papier, soit toujours officiellement, officiellement disponible en version numérique, pour que l'auteur soit toujours lié sur la totalité du dispositif contractuel. Et ça, c'est totalement contraire au principe essentiel du droit d'auteur qui exige qu'à un moment, le livre est épuisé, ou l'éditeur choisit de remiser dessus et réimprime et retire et remet véritablement en vente, donc s'oblige à un minimum d'efforts, ou alors il perd les droits à vertu de mécanismes précis, des envois de lettres recommandées, etc. Et l'auteur est apte à repartir, se vendre dans une autre crémerie. Donc c'est là qu'est aujourd'hui la seule faille intéressante. Discuter de taux sur, sincèrement, des supports qui sont obsolètes au moment même où le contrat est rédigé, sincèrement, c'est pas bien entendu, mais je cite en ce moment des contrats, il se méfie d'un truc, parce qu'il me regarde et il me voit signer sans problème. Donc quand je signe sans problème, ça veut dire ton contrat, c'est de la merde. Donc la question qui vient derrière, en fait, c'est s'il dit, tu veux pas nous faire un audit général de nos contrats en matière d'édition à l'aune de, sous le prisme du numérique. Donc voilà. Donc c'est une façon de déclencher aussi l'arrivée des clients. Hein. Donc je peux compenser la baisse de mes droits d'auteur en numérique grâce à ce petit stratagème.
Je crois qu'on a déjà un petit éclairage un petit peu roboratif hein, qui change sans doute des idées reçues qu'on pouvait déjà travailler ou entendre ici ou là. Peut-être que maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps avant que les prochains conférenciers arrivent. Peut-être quelques questions de la salle.
Vous parliez de droits liés aux plateformes, mais il s'agit vraiment des plateformes ou du type, enfin vraiment du format de fichier.
Non, c'est pas la même chose, mais comme les éditeurs n'y comprennent rien, ils mettent dans un même moment général, alors ils n'indiquent pas la plateforme dans le contrat, mais on le sait, il suffit de pianoter 2 secondes sur Google pour savoir chez qui l'éditeur avec qui on a pactisé, chez qui lui-même a en quelque sorte mis son catalogue. Est-ce qu'il a pactisé avec la plateforme faite par Gallimard, machin et Midulou Chouette, ou est-ce qu'il est chez avec la plateforme d'Hachette? Donc c'est assez facile de regarder, de voir. Non, ce qu'il a dit, généralement, ce sont des formats dans les contrats. Mais effectivement, en plus avec cette chose incongrue, que certains ne vérifient pas la compatibilité de leur format avec la plateforme avec laquelle ils ont signé. Donc, on va dire qu'ils ne sont pas prêts à développer les ventes. Voilà. Et les effets d'annonce, pardon, je termine sur un point, sur ça. Et des effets d'annonce aussi dans la presse, moi, qui me laissent très songeur, notamment les annonces d'Amazon sur la vente de livres numériques. Donc de fichiers, etc. Alors évidemment, quand on habite au fin fond du Middle West, d'abord on lit peu de livres, donc effectivement, les rares personnes qu'on lise, comme il n'y a plus de librairie à moins de 2000 km quand vous êtes à Milwaukee, effectivement, vous en êtes amené à télécharger, parce que même la commande en ligne d'un livre papier vous fait passer pour un dangereux terroriste auprès du facteur qui vous l'apporte. Mais ça, c'est un problème d'analphabétisme général. Donc Amazon passe son temps à faire des communiqués en ce moment pour indiquer, il y en a eu à la semaine dernière, peut-être qu'ils avaient vendu plus de livres numériques que de livres en version papier. Alors, c'est vrai, ça leur arrive. Ça leur est arrivé notamment, ils ont fait un communiqué triomphal le 25 décembre au soir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc, le dernier, 25 décembre dernier. C'était magnifique quand même, quand on songe à la date du communiqué. Donc le 25 décembre au soir, ils avaient annoncé que dans la journée, ils avaient vendu plus de livres numériques que de livres papier. Évidemment, je connais personne qui achète un cadeau en ligne le 25 dans la journée pour l'offrir comme version papier dans les 3 jours en disant « Voilà ton cadeau Noël, chéri !» Donc qui est arrivé avec un peu de retard, parce que je me suis aperçu ce matin que c'était Noël aujourd'hui. En revanche, les gens qui s'étaient fait fourguer une liseuse de chez Amazon en cadeau, qui disaient « Oh putain !» bon, au moins fait l'effort d'aller chercher un truc en ligne le lendemain, et puis voilà, quand on essayerait un nouveau gadget, le robot super mixeur que vous avez dans votre cuisine, et après vous vous dites c'est trop le bordel, je vais réutiliser le vieux machin qui marche un peu mieux. Donc effectivement, il y a des effets d'annonce qui font un peu peur. Faut pas se leurrer sur l'importance que ça prendra, le livre numérique, hein, mais pas non plus se laisser avoir avec des effets de ce type-là.
Jean-Claude Bugnac.
Moi, j'ai un cas un petit peu particulier parce que je publie des livres numériques aux États-Unis, j'ai deux recueils que j'ai traduits, donc j'ai
mis...
Oui, il faudrait peut-être prendre le micro.
Ouais.
Quelqu'un peut-il le porter le micro ? Surtout pour que le public entende l'intervention à la question.
Je disais, je suis effectivement dans le cas où je publie des livres numériques aux États-Unis, bon, puisque j'ai un éditeur pour ça, et donc ça passe par Amazon, par Barnes & Noble et toutes ces choses-là. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a des populations qui achètent énormément de numériques, qui sont les étudiants. Parce que d'abord, les étudiants en particulier, moi je suis un auteur étranger pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants de littérature qui sont obligés de lire des livres étrangers, mais il n'y a pas beaucoup de livres traduits. Donc c'est un marché dans lequel j'ai ma place, naturellement. Et les facultés achètent. Les facultés achètent parce que d'abord, beaucoup d'étudiants ont des liseuses simplement parce que leur prof leur file des choses sur liseuse. Donc ce sont des gens qui se trimballent avec leur liseuse pour avoir les polycopes de cours que nous on a encore en papier, ou les bouquins de cours, et c'est une espèce de chose institutionnelle chez eux. Et tous ces gens-là ont un lien sur Amazon, sur Barnes & Noble, etc. Ensuite, aux États-Unis, on a clairement, pour autant que je puisse le constater, un et un seul vendeur, ou deux et trois vendeurs maximum plateforme de livres où tout le monde va acheter, qui sont Amazon, éventuellement un ou deux autres trucs, Barnes & Noble marche. Apple s'est planté sur ce côté-là, semble-t-il, mais ils avaient visé ça. Mais il n'y en a pas plus. En France, évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est un premier point sur lequel je voulais insister. Aux États-Unis, on est en train d'avoir véritablement une population de jeunes qui sont arrivés avec la liseuse parce que leurs études l'ont imposé. Si un jour en France ou en Europe, on arrive avec une directive européenne qui dit le poids du cartable, moins d'un kilo, on sera obligé d'avoir des liseuses, parce qu'on n'aura plus de bouquins, et à ce moment-là, vous aurez des gamins qui auront appris à lire à l'âge de 7 ans sur une liseuse ou sur une tablette ou autre comme ça, et pour qui le livre numérique deviendra en quelque sorte la norme, à la différence du livre papier. Et ça, il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Y a des projets comme ça côté européen, je le sais pour travailler dans le domaine, et qui sont en ce moment bloqués par un certain nombre de choses, mais qui ne vont pas rester bloqués longtemps. Deuxième point que je voulais dire, il y a au moins un exemple d'une profession qui a disparu en 10 ans. Les gens en parlent peu, mais elle a disparu en 10 ans, c'est la profession de photographe. Le photographe qui était dans la plage ou dans votre petit village qui faisait des photos. Pourquoi ? Parce qu'on fait tous des photos numériques, et quand on a besoin de les faire développer, soit on a le grand supermarché qui a une borne, soit on a Internet qui nous le fait. Donc le monsieur photographe, qui était quelqu'un qui en plus vous prenait les photos, allait au mariage, vous faisait les reportages, etc., mais il n'est plus là. Et même sur les plages où vous aviez en principe les gens quand même, on a amené des rouleaux de film en disant tiens, j'ai photographié le bébé sur la plage, je veux avoir la photo, il n'y est plus. Donc en 10 ans, cette profession a totalement disparu. Et puis une troisième chose qui m'est arrivée moi dernièrement, ça m'a fait beaucoup rire et puis après ça ne m'a pas fait rire du tout. Je signe aussi des contrats d'édition musicale en tant que parolier. Et j'ai eu, il y a un an de ça, à signer un contrat où je saisais les droits pour la Terre et pour l'ensemble du système solaire. Je dois avouer que pour un auteur de science-fiction, tomber sur ça dans le paragraphe 2 de son contrat, c'était un contrat universel, je vous signale, après c'est un truc sérieux, je veux dire. La Terre et l'ensemble du système solaire. Là, on se tourne vers le producteur, on lui dit, écoute, je suis extrêmement flatté, mais je dois t'avouer que sur Mars, je fais un bide absolu. Et il dit, oui, mais la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'il y a une menace, que les Chinois envoient des satellites en orbite, donc en dehors de la Terre, où ils feraient des broadcasts de chansons sans payer de droits parce qu'ils sont en dehors de la Terre et ils nous ont déjà fait des coups comme ça. Ensuite, on peut utiliser la station spatiale européenne ou d'autres pour diffuser de la musique et elle est aussi également en dehors du territoire. Donc le système solaire, au moins on est tranquille quelques temps. Et je disais, mais il y a vraiment des gens qui pensent à ça et le gars m'a dit, tu sais, dans les jeux vidéo, ils ont perdu un certain nombre de droits, ils ont perdu Tetris par exemple. Parce qu'ils ont refait formuler le contrat en disant le jeu Tetris sur ordinateur, l'ordinateur comporte un écran, un machin, un clavier, et ensuite quand ils sont arrivés avec les jeux vidéo, ils ont dit il est où le clavier ? Donc les droits Tetris fument. Et donc ils m'ont dit voilà, le système solaire c'est pour bloquer ça. Donc il y a des tas de gens qui se posent des tas de questions, tu dois le savoir certainement mieux que nous, mais le coût du système solaire, ça existe. J'ai signé le contrat et c'est un contrat standard.
C'est pas qu'on s'ennuie, mais il y a dans 5 minutes une autre conférence qui démarre. Alors on va laisser le mot de clôture à Emmanuel Pira en le remerciant déjà de nous avoir en tout cas ouvert plein de pistes et donné envie de mieux découvrir. Petite question, moi, avant qu'il conclue. Le livre sur l'édition numérique d'Emmanuel Pira, il sort quand ?
Alors, je crois que je n'en publierai pas parce qu'il faudrait le remettre à jour à peu près tous les 6 mois et sincèrement quand tu l'as dit je dors 12 heures par nuit Donc c'est incompatible avec mon rythme de travail. Non, j'en ferai un, je pense, l'année prochaine, mais pour l'instant, sincèrement, comme on va dire chaque ministre de la Culture, chaque Commission européenne a sa directive dans sa poche qui est contraire au texte précédent, et qu'on est en train de se battre, moi je suis en train d'essayer de comprendre comment s'appliquent à l'heure actuelle encore les arrêtés qui viennent d'entrer en vigueur de la DAFSI, donc c'est le texte encore une fois avant la DOPI, hein, sachant que les textes de la DOPI, pour en grande partie, ne sont toujours pas en vigueur. Et qui sont déjà en contradiction avec plusieurs autres textes. Donc, faire un bouquin sur le droit de l'édition numérique ou quoi que ce soit pour l'heure actuelle revient à dire en clair rien ne fonctionne, rien ne s'imbrique et à pointer du doigt les difficultés. Mais les difficultés de notre ami sur le système solaire, etc. Et par ailleurs, ça c'est effectivement, moi je me suis bêté faire toquer, j'ai mis tout l'univers une fois dans un contrat. Donc, mais c'était un moment où Coca-Cola avait des projets de pub sur la Lune, avec un système de réflexion, et voulait inscrire Coca-Cola en énorme sur la Lune. Et ils ont reculé non pas en raison des moyens technologiques, hein, mais parce qu'ils pensaient que ça serait peut-être après contre-productif. En termes d'image de marque.
On leur a l'album Zorglu.
Et donc, ceci dit, comme on écrit, par exemple, en matière de cinéma, des clauses sur la diffusion dans les avions, puisqu'on est en territoire extraterritorial, hein, et donc on se retrouve avec des systèmes parfois ou des clauses un petit peu amusantes. Non, pour terminer, moi je suis très heureux, je viens de récupérer, à force de voir des contrats ahurissants en droit américain, sur des livres qui n'existaient plus en version papier, les droits pour tout Claude Lévi-Strauss, puisque j'étais l'avocat de Claude et je suis l'avocat de sa veuve et de ses enfants. Et au bout d'un moment, l'édition américaine étant ce qu'elle est, et effectivement l'édition notamment universitaire fait que tout le monde était sur liseuse et que les étudiants en anthropo, en ethno ou quoi que ce soit, ou en sciences humaines en général, lisent Triste Tropique en version numérique, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, à regarder le Gallimatia, j'ai eu un vrai problème d'ailleurs qui était assez abusant, c'est Monique m'appelle et me dit, Monique Lévi-Strauss, pardon, m'appelle et me dit, Manuel, je comprends rien du tout, je reçois des droits d'université que je ne connais pas. Donc elle a vraiment une université paumée, celle où on envoie les sous-sous-sous ratés qui payent très cher. Et elle me dit, je ne sais pas du tout qui sont ces gens et comment ils ont les droits de la pensée sauvage. Donc qui n'est pas un livre négligeable dans l'œuvre de Lévi-Strauss. Donc je finis par regarder qui sont ces gens, j'ai dit mais où est le contrat, elle me dit ah j'ai un problème, c'est que Claude a fait don de toutes ses archives à la Bibliothèque Nationale de France et dans les archives il y avait les contrats. Donc j'appelle la Bibliothèque Nationale de France qui a normalement un programme de numérisation des archives, etc. Elle me dit oh là là, le fonds Lévi-Strauss peut-être dans 20 ans on aura numérisé. J'ai dit écoutez, je sais que je ferai une faveur, je voudrais venir consulter, faire des copies de tous les contrats de Lévi-Strauss parce que là je suis dans un petit bazar. Claude s'était réservé les droits américains depuis très longtemps, hein, depuis que Plon en 1950 avait été incapable de lui trouver un éditeur américain. Il avait dit puisqu'il ne s'en trouvait pas, je me garde les droits. Et l'année d'après, il a fait Triste Tropique. Plon s'en est légèrement mangé les doigts. Il s'avère que donc je finis par retrouver le contrat, je finis donc par retrouver l'éditeur américain qui effectivement, en dépit de toutes les règles. Valable, etc., partant d'un contrat donc, qui date de 1954, qui ne mentionne, vous l'imaginez, pas tout à fait l'iPad, se retrouve à exploiter absolument sans droit et en état de contrefaçon. Alors, quand vous avez envoyé une lettre à une université américaine et que vous mettez en bon avocat franchouillard droit moral en français avec des guillemets, ils ne savent même pas ce que c'est, ils savent que ça coûte cher, c'est tout. Et donc, immédiatement, tous ces gens ont rendu sympathiquement les droits et nous avons signé un contrat extrêmement fair play en termes d'usage, de pourcentage, ainsi de suite, avec Cornell et Yale, qui sont des universités plutôt valables en termes notamment de diffusion numérique. Donc, on va dire, effectivement, il faut rester vigilant sur l'usage qui est fait, notamment dans le milieu universitaire et la façon dont c'est fait. Moi, ça m'amuse plutôt dans l'autre sens quand... vous savez, vous avez vu le procès qu'avait fait la fille qui travaillait sur Lolita, qui faisait une thèse l'année dernière sur Lolita de Nabokov, et elle faisait sa thèse uniquement avec de l'hypertexte et des liens qu'elle mettait sur une édition entièrement numérique. Et il y a eu un bug sur le Kindle, je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué, mais enfin bref. Ils ont éliminé tous les fichiers qui avaient été à distance, ce qui est quand même formidable. Ils ont eu la possibilité technologique donc, d'éliminer les fichiers que vous aviez téléchargés pour un truc en vous les remplaçant. Donc la fille a 2 ans de thèse dans laquelle on lui a remplacé la totalité de son fichier annoté par ses soins par une version entièrement neuve et on va dire économiquement plus lisible de Lolita, mais évidemment sans 2 ans de travail de thésarde. Donc elle a attaqué, ce qui fait que vu les dommages et intérêts qu'elle a trouvés, qu'elle a touchés, finalement elle n'a pas fini sa thèse. Donc on n'en sera pas plus sur Lolita.
Et ben voilà une jolie conclusion. Voilà une jolie conclusion. Merci à Emmanuel Pierrat. Et vous le retrouvez évidemment, vous le retrouvez sous la bulle du livre pour la signature des ouvrages. Merci.